Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast. Que vous soyez du milieu médical ou non, je vous invite à rester à l'écoute de ces témoignages de patients et de soignants qui enrichissent jour après jour ma pratique. Je m'appelle Aurélie, infirmière depuis 2015. Je travaille à l'hôpital depuis toujours, exclusivement dans le domaine de la cardiologie. L'idée de ce podcast est née d'une envie de faire découvrir au grand public la réalité du métier, le côté agréable et humain auprès des malades et de ses collègues, et au contraire, le manque de moyens et de personnel d'autant plus évident ces derniers mois. De plus, il me paraissait aussi important d'inclure des témoignages de patients afin qu'ils nous fassent part de leur parcours de vie, des bons et des mauvais moments. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le premier podcast de cette nouvelle année. Je vous souhaite tout d'abord une très belle année 2022, qu'elle soit riche de nouvelles expériences et que vous puissiez réaliser vos envies dans cette période difficile que le monde traverse. Au vu de la situation actuelle, je me suis posé la question de l'intérêt du podcast, au vu du ras-le-bol de l'ensemble des paramédicaux. Et je me suis dit que le Covid faisait déjà assez de dégâts dans nos vies personnelles et que ce projet, j'avais envie de le porter déjà depuis un moment, donc j'ai envie de continuer là-dedans et de pouvoir nourrir des espoirs pour les générations futures infirmiers. L'invité de ce mois-ci est Yann, infirmier chargé de formation. Je précise du coup que cette interview a été tournée en février 2021, planning de soignants oblige. Les dernières minutes du podcast sont consacrées au Covid. Et du coup, à cette époque, on ne savait pas encore qu'on allait passer trois nouvelles vagues. Merci encore à toutes et à tous pour tous vos messages, et je vous souhaite tout de même une bonne écoute. Salut Yann, et merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter pour que les auditeurs puissent te connaître un peu mieux?
Bonjour, moi je suis Yann Le Guen, je suis infirmier chargé de formation sur le pôle d'anesthésie réa, plus particulièrement rattaché à la réanimation cardiaque. Puis ensuite, j'ai 48 ans, je suis diplômé infirmier depuis 1997. J'ai travaillé dans plusieurs services, notamment de la cardiologie et puis après pas mal sur la réanimation. Et je suis arrivé, j'ai fait mes études sur la région parisienne. Et puis ensuite, j'ai réussi à avoir un poste sur la réanimation cardiaque en 99. Et depuis 99, je suis sur la réa cardiaque. Et j'ai été dans les soins jusqu'à 2012.
D'accord, donc de 97 à 99, t'as fait tu faisais de la cardio ?
De la cardio, oui. J'ai fait mon service militaire à l'hôpital du Val-de-Grâce en cardiologie. Et puis après, j'ai fait pas mal d'intérim dans différentes réanimations avant de trouver un poste stable.
Comment t'es arrivé sur ce poste de chargé de formation ?
En restant quelques années en réanimation, on s'est rendu compte que fallait s'investir un petit peu dans la formation pour garder un petit peu les gens sur place, parce que sur la réanimation, on a un turnover qui est vraiment important de la part du personnel. Et puis, avec les années, on se rend compte aussi que la technique évolue et devient de plus en plus spécialisée. Et du coup, j'étais déjà bien investi dans l'accompagnement des nouveaux professionnels et puis aussi dans l'accompagnement des étudiants. Et du coup, vu que j'étais bien lancé là-dessus, avec le passage en 12 heures, on a fait une réorganisation dans le service et du coup, on a pu dégager un poste pour gérer ça. Donc quand j'étais dans les soins et que je m'occupais des étudiants et des nouveaux professionnels, j'avais de moins en moins de temps pour m'occuper des patients et j'étais souvent dérangé. Et du coup, c'était plus compatible de faire ça et les soins habituels. Donc j'en ai parlé avec les cadres supérieurs et qui ont compris l'intérêt de mettre en place un poste comme ça. Et c'est comme ça que j'ai attaqué en 2012 l'infirmier chargé de formation. Alors on savait que ça existait dans d'autres réanimations, hein, ça commençait à être un besoin. Et puis surtout, c'est aussi à mettre en corrélation avec un peu la réforme des études, le portfolio, les tuteurs. Et du coup, pour avoir un tuteur identifié, ça devenait un petit peu compliqué, ça prenait encore plus de temps. On peut faire ça pendant notre temps de travail, sur nos jours de repos, mais au bout d'un moment, c'est plus possible de tout gérer comme ça. Donc ça a permis de gérer ça. Et en 2011, on a aussi ouvert 8 lits d'USC d'unités de surveillance continue, donc des patients monodéfaillants qui sont attenants à la réanimation. Et du coup, sur cette ouverture de 8 lits d'USC, on a eu énormément de personnel qui arrivait d'un coup, 20 infirmiers en gros. Et du coup, une arrivée de 20 infirmiers en même temps, ça a été extrêmement compliqué à gérer. Du coup, on s'est bien rendu compte qu'il fallait quelqu'un qui organise un petit peu tout ça et qui assure le suivi.
D'accord. Et tu dis oui, c'est dans plusieurs réanimations. Tu sais s'il y a d'autres services, pas forcément ici, mais ailleurs qui...
Avant et maintenant, il y avait déjà de temps en temps des infirmiers qui étaient détachés des soins pour gérer... c'était principalement du matériel ou ce genre de choses. Puis tout le monde a compris l'intérêt d'avoir quelqu'un en dehors des soins pour faire différentes tâches. Alors après, c'est là où c'est assez compliqué parce que personne ne met trop la même chose derrière ce poste d'infirmier volant. Et il y a pas mal d'endroits où l'infirmier volant allait s'occuper de techniquer les patients avec les médecins, d'autres endroits où il était plus attribué à la maintenance du matériel. Et du coup, moi j'ai eu la chance avec l'encadrement de notre réanimation d'avoir un petit peu carte blanche pour organiser ça, avec les différentes formations que j'avais eues principalement sur le tutorat en fait. Et ils m'ont laissé un peu libre champ pour faire ce que je voulais. Et le modèle a été quand même plutôt pas trop mal parce qu'on a vu que y avait moins de pertes de compétences, que les gens étaient plus rassurés quand ils débutaient en réanimation et qu'on gardait notre personnel un petit peu plus longtemps. Et par contre, en réanimation, on a un turnover qui est plus important que dans les autres services. On a à peu près 20% d'effectifs qui changent chaque année. Donc sur une équipe de 45 infirmiers, ça me fait facilement 8 à 10 personnes qui changent chaque année.
Oui. Et je sais qu'en réanimation, les gens sont formés de 2 mois, il me semble.
Ça dépend aussi des réanimations. Et c'est un mois de formation en 7h30. Ça fait partie des choses qu'on a définies, qu'on a mis en place. C'est 7h30 de formation avec les infirmiers de réanimation qui vont apprendre les gestes et puis un petit peu pas mal de choses du boulot d'infirmier. Et moi, le chargé de formation, je fais une synthèse avec eux toutes les semaines et pour se refixer des objectifs et pour avancer. Comme ça, on a un encadrement qui est un petit peu à la carte.
Et donc, puisqu'on parle de tes missions, est-ce que tu peux expliquer une journée type ou...
Alors, c'est assez difficile à expliquer comme ça parce qu'il y a énormément de casquettes derrière un poste comme ça. Ma mission première, c'est d'organiser et de coordonner l'encadrement des étudiants et des nouveaux professionnels. Et puis ensuite, l'autre partie qui est très importante, l'application et le respect des protocoles du service. Voilà, parce que ça, les infirmiers, on travaille toujours sur prescription, sur protocole. Et souvent, on a toujours des petites... on fait toujours évoluer notre pratique. Et souvent, il y a des déviances qui vont d'un côté ou de l'autre. Alors quand c'est des évolutions de pratiques qui vont plutôt dans le bon sens organisationnel, et on valide ça et on remet ça sur papier pour que tout le monde fasse à peu près la même chose. Et par contre, si c'est cette déviation, elle va plutôt du mauvais côté, moi je vais recadrer un petit peu, mais pas avec un képi et un sifflet. Hein. On va réexpliquer pourquoi est-ce qu'on doit faire comme ça et voilà. Et après, sur la réanimation, on a quand même des soins qui sont extrêmement techniques et avec des prises en charge très pointues. Et du coup, et aussi avec des patients dont l'état est extrêmement précaire et peut varier très très rapidement. Et du coup, on a besoin de mettre en place des automatismes et des mécanismes pour répondre très vite à un changement d'état du patient. Et du coup, moi, je suis là-dessus pour essayer d'expliquer tout ça aux jeunes et puis de bien faire, de bien caler à nos protocoles. C'est pas que nous, on est plus fort que les autres réanimations ou les autres services, mais c'est que chaque service de réanimation a besoin de ses process pour être le plus rapidement effectif et opérationnel. Si jamais notre patient ne va pas très bien et qu'on a un autre patient qui ne va pas bien à côté, il faut que le collègue qui arrive il puisse gérer tout de suite sans se mélanger des pinceaux. Et du coup, voilà, on est obligé de standardiser un petit peu toute notre prise en charge. Euh, La journée type, c'est j'arrive et puis je vais faire le tour un petit peu de tous les secteurs et de tous les infirmiers pour voir comment est-ce que ça se passe, s'il y a des prises en charge compliquées qui ont besoin d'éclaircissement ou si tout va bien, tout va bien. Et puis en étant présent un petit peu tout le temps dans l'unité, ça nous permet que les infirmiers peuvent m'interroger, me questionner tout le temps. Et du coup, c'est un petit recours pour les infirmiers qui ont un petit doute sur comment faut faire ou sur comment est-ce qu'on utilise telle machine. Et du coup, il y a de l'explication directe tout de suite. Et sur le petit tour du matin, ouais, j'en ai facilement pour une demi-heure, une heure, le temps que tout le monde pose les questions, s'il y avait des choses en suspens, pour démêler déjà pas mal de la prise en charge. Quand tout est calé, je vais aller peut-être un petit peu dans mon bureau pour justement répondre un petit peu à tous les mails et voir comment se passent les derniers protocoles, les mises à jour ou ce genre de choses. Je vais aussi beaucoup échanger avec mes collègues chargés de formation des autres réanimations, pour qu'on se tienne toujours au courant de comment est-ce que avance nos projets. Et puis surtout, quand il y a eu un problème dans une réanimation, on réfléchit tous ensemble à comment est-ce qu'on peut éviter que ce problème se reproduise. Si c'est arrivé quelque part, ça va forcément arriver ailleurs. Donc on va discuter ensemble des mécanismes à mettre en place pour éviter le problème. D'accord. Et puis après, on fera valider ça, bien sûr, comme à chaque fois, par les médecins. Et puis après, quand on avance dans la journée, on a la visite médicale.
Oui, c'est ce
donc
que
chez nous, c'est de 11h30 à 13h, où les médecins vont rediscuter de toutes les prescriptions qui ont été mises en place. Et je suis cette visite aussi régulièrement que possible. Comme ça, ça permet de suivre ce qui se passe au contact des patients. Et puis, si les infirmiers sont un petit peu timides ou un petit peu nouveaux, je peux intervenir plus facilement parce que j'ai pas de complexe.
Tu les connais aussi peut-être depuis plus longtemps.
Oui, je connais bien les médecins. Et puis, je sais parfaitement quel est mon rôle paramédical et le rôle des médecins. Et s'il y a des interrogations, je pose clairement la question et les médecins nous répondent franchement. Je fais une petite interface. On arrive sur l'après-midi et sur l'après-midi, c'est nous, on a tout. Parce que notre réanimation est structurée comme ça, on fait beaucoup de post-opératoires. Et du coup, il y a l'arrivée des blocs et les retours de blocs. Et je suis souvent par là à superviser un petit peu pour m'assurer que tout aille bien.
D'accord. Et donc j'imagine que tu as un lien assez étroit avec le cadre du service.
Donc ouais, moi j'ai des liens avec les cadres, les infirmiers, les aides-soignants, enfin tout le personnel paramédical, avec les cadres de santé et avec les médecins. Donc je suis au milieu de tout ça et on essaye de composer avec tout le monde pour voir au mieux de l'intérêt de tout le monde. Donc les cadres de santé, normalement, c'est plutôt eux qui ont le versant pédagogique, qui sont maîtres de stage là, pour les étudiants ou ce genre de choses. Mais sur nos réanimations, qui avons beaucoup de personnel, c'est un petit peu compliqué de tout faire. Donc c'est pour ça qu'il fallait une personne en plus pour gérer toute cette partie-là. Et s'il y a des problèmes qui me remontent, je ne vais pas traiter tout ça tout seul dans mon coin. Hein. Ça sera avec les médecins, avec les cadres de santé, les autres chargés de formation. Et on essaye de voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire avancer le problème. Alors, le lien avec les médecins. Donc déjà, pour commencer par ça, le lien avec les médecins, quand les médecins constatent qu'il y a deux, trois, que les infirmiers leur répondent pas, ne répondent pas à leurs attentes, on va voir ensemble qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que l'infirmier a pas bien compris ou est-ce que c'est le message du médecin qui était pas très clair. Et du coup, je suis là au milieu pour démêler un petit peu tout ça et pour éviter que ça se reproduise comme chose. Hein. On a eu pas mal de boulot sur les procédures en urgence. Donc sur la réanimation, une de nos situations d'urgence la plus emblématique, c'est l'intubation. Et du coup, on se retrouvait avec beaucoup de médecins qui étaient présents et qui prenaient toute la place des infirmiers parce que nous, on avait déjà expliqué aux infirmiers que ça ne servait à rien d'être trop nombreux. Et la nature ayant horreur du vide, c'était comblé par des médecins. Donc on a pas mal vu ensemble avec eux pour un peu tout ça, parce que c'est bien beau de caler les paramédicaux, mais il faut aussi caler avec les médicaux. Donc c'est un travail d'équipe en fait. Et puis avec les médecins, dès qu'il y a des nouveaux protocoles, on voit ensemble ce qui est faisable et réalisable rapidement par les infirmiers. Et puis après, bah, c'est moi qui vais, s'il y a des nouveaux protocoles ou des nouvelles choses, je vais faire le relais auprès des infirmiers pour expliquer comment est-ce qu'on fait, s'il y a une étude, je vois avec les médecins ce qu'ils veulent et comment est-ce qu'on peut mettre en place pour les infirmiers. Donc après, on a aussi des choses qui sont un peu différentes. C'est-à-dire que quand on a des patients qui ont une défaillance cardiaque en phase aiguë, ils ont des assistances cardiaques, le temps de voir un petit peu comment est-ce que le patient récupère et comment est-ce que ça se passe. Et puis après, ces patients-là, souvent, ils ont besoin d'un cœur artificiel. Et du coup, bah, c'est des patients qui sont conscients, réveillés, avec le cœur artificiel. Ils sont vus par pas mal de monde, hein. D'abord nos médecins. Ensuite, on fait aussi intervenir les cardiologues qui suivent à distance le patient avec son cœur artificiel. Et après, bah, les patients, ils ont souvent pas mal de questions. Et vu que c'est quand même des thérapies qu'on a, pas de manière exceptionnelle, on doit en faire 10-15 par an, mais quand même... Tous les infirmiers ne sont pas parfaitement au clair là-dessus. Et du coup, bah, une demande de passer pour réexpliquer au patient comment est-ce que ça va se passer derrière la suite, en autonomie qu'il aura. Enfin, voilà.
Bon, j'imagine que tout ça, tu l'as appris avec le temps et avec les années d'expérience, mais tu dois aussi pas mal te former sur l'année.
Ben les formations, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est principalement, j'ai fait des trucs sur le tutorat et sur l'analyse de pratique. Et puis après, j'ai fait d'autres formations sur la simulation. Et avec la simulation, on retombe un petit peu là-dessus, hein, sur les débriefings, c'est de l'analyse de pratique. Et puis après, bah, c'est beaucoup d'échanges avec les collègues. Et si on a quelques difficultés, on a aussi une psychologue qui est là sur le pôle d'anesthésie et puis qui peut nous donner quelques pistes pour savoir si c'est encore notre ressort ou s'il faut qu'on oriente ailleurs.
Tu es référent aussi de pas mal de choses.
Oui, alors bah, le fait que je sois infirmier et détaché des soins, bah, ça laisse la possibilité de suivre pas mal de choses. Et du coup, bah, je fais partie du CLUD, le comité de lutte contre la douleur. Pardon. Je fais aussi partie du groupe pluriprofessionnel droit des patients en fin de vie. Et puis, j'ai pas mal de choses qui sont comme ça en transversal. Je ne vais pas tout énumérer parce que ça fait un petit peu compliqué, mais voilà, j'ai pas mal de choses comme ça. Et puis bah après, il y a aussi la partie matérielle qu'on n'a pas abordée. Mais dès qu'on a quand même du matériel, nous en réanimation, qu'on garde 10 ans en gros, et tous les 10 ans, on change pas mal de matériel, et puis il y a des nouvelles techniques qui apparaissent. Et du coup, bah, là-dessus, c'est les industriels qui vont me former plutôt moi. Et puis ils vont former aussi un petit peu l'équipe, mais après, bon, faut assurer le suivi. Hein. Une formation, ça se fait pas, on donne un truc une fois et puis après, ça marche pour tout le reste. Hein. Faut de l'accompagnement au coup par coup. Et du coup, voilà, je suis pas mal là-dessus. Et puis bah, après, l'autre grosse partie qu'on a eue là, sur la crise Covid, c'était de remonter, d'augmenter notre capacité de lead réanimation. Et pour ça, bah, on a coordonné pas mal de choses avec tous les différents intervenants, les ressources humaines, le matériel, après l'approvisionnement avec la pharmacie. Enfin, voilà, on a géré beaucoup de choses pour augmenter notre capacité. Et voilà. Et puis après, sur les ressources humaines, on s'est aussi, avec les cadres, on a énormément travaillé pour essayer d'avoir des infirmiers qui venaient, qui n'étaient plus issus de... Enfin, avec les infirmiers, avec les compétences réanimation, mais qui ne sont plus en réanimation, de mixer avec nos infirmiers du service pour garder un certain savoir-faire. Ça a été très très compliqué. La première vague est relativement épargnée. Parce qu'on a augmenté notre capacité de lit, mais on les a remplis une fois et puis ça a redescendu aussi vite. Donc là-dessus, c'était pas mal. Par contre, sur la deuxième vague, c'était beaucoup plus compliqué. On a rien que sur nous, notre réanimation. D'habitude, on a 12 lits de réanimation et 8 d'USC. Et on a transformé, on a réussi à monter à 30 lits de réanimation. Donc, sachant qu'on a gardé le ratio pour être normé, hein, c'est un infirmier pour 2,5 patients. Et là-dessus, on n'a pas baissé nos standards et nos exigences. Et du coup, 30 lits de réanimation, ça fait beaucoup d'infirmiers à travailler tous les jours. Et c'était Ouais, bien compliqué. Déjà pour avoir le matériel, pour avoir des choses qui soient à peu près fonctionnelles et opérationnelles. Et puis ensuite avec du personnel qui est pas issu de la réanimation tout de suite. C'était compliqué. Mais on a eu, voilà, après ça s'est très bien passé. Parce que tous les personnels qui sont venus, donc nous, ce qu'on a fait, c'est surtout, c'était des personnels qui étaient issus des blocs opératoires, principalement des IGAD, hein, qui ont pour la plupart un passé de réanimation. Donc ils sont revenus, vu que les blocs étaient fermés, sont revenus dans nos réanimations. Et puis on a repris aussi des gens qui avaient bossé quelques temps en réanimation et qui étaient partis, qui avaient changé de service. Mais du coup, ces services nous ont redétaché ces infirmiers de réanimation. Et puis après, ceux qui n'avaient pas de compétences réanimation, ils sont venus dans les réanimations, mais en tant qu'aide-soignant. Et du coup, ça donnait la vocation à 2-3 infirmiers. On a recruté depuis 3 qui avaient fait le passage en Covid comme aide-soignant et qui sont venus après comme infirmiers. Voilà. C'était assez fatigant.
Oui,
Parce qu'on a
j'imagine.
eu beaucoup de patients à tourner avec pas presque plus de lits d'avance, donc c'était chaud. Voilà, on n'est pas
J'imagine.
pressé que ça recommence.
Ouais, non, je crois que personne ne l'est. Bon, bah, merci pour les réponses.
Ben, merci.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée!